I'm turning today to the Gospel of John, chapter 21 and verse 18.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21 et au verset 18. L'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 18. Ces paroles de Christ, en vérité, je te le dis. Lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Les paroles de Christ à Pierre. Et notre sujet aujourd'hui est le suivant: glorifier Dieu dans la vie et dans la mort. Nous en arrivons à la fin de notre étude de l'Évangile de Jean. Et nous en arrivons à ce chapitre si important, la dernière partie de cet Évangile. Et ce chapitre n'est pas simplement rajouté au reste, comme certains le pensent. La conclusion de l'Évangile de Jean n'est pas à la fin du chapitre 20. Ce n'est pas que l'apôtre Jean rajoute quelque chose qui n'est pas important. Mais non, c'est là, dans beaucoup d'aspects, le chapitre le plus important de l'Évangile de Jean. Nous avons vu que le Seigneur apparaît, après sa résurrection, aux 7 disciples au début du chapitre 21. Et cette pêche miraculeuse, et ce que cela signifie, et l'application de ceci pour nous, et la restauration de l'apôtre Pierre par le Seigneur, après qu'il ait nié le Seigneur, et à présent, une déclaration si solennelle qui suit directement ces versets. Au verset 18, « en vérité, je te le déclare d'une manière si solennelle. » Ceci pourrait être traduit ainsi, « en vérité, je te le dis. » Et le Seigneur dit à Pierre comment il va mourir dans une prophétie. Il sera exécuté, il va mourir martyr. À première vue, ceci semble bizarre et étrange que le Seigneur dise ceci immédiatement après qu'il restaure Pierre. Ceci ne semble pas être quelque chose qui va le fortifier ou l'encourager. Et en passant, tu vas mourir martyr. Ainsi, naturellement, nous demandons, mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit ceci à Pierre d'une manière évidente, pour faire cette prophétie solennelle qui concerne le martyre de Pierre? Ceci est une déclaration qui rend sa mission sérieuse, très sérieuse. Pierre, tu es restauré. Tu m'as nié trois fois. Trois fois, je t'ai dit, paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis. Je te donne une mission apostolique à nouveau. C'est là ta mission. Et immédiatement après cette prophétie de sa mort martyre, c'est là quelque chose de sérieux. Et Pierre est émerveillé à l'apparition du Seigneur ressuscité. Ce n'est pas la première fois qu'il voit le Seigneur ressuscité, mais il est plein d'admiration, émerveillé. Ainsi, ceci ne sous-estime pas les choses. C'est le Seigneur ressuscité qui dit ces choses. Ces choses sont sérieuses, solennelles. Et nous avons besoin également de réaliser que ceci est solennel. En tant que chrétien, notre mission, non pas en tant qu'apôtre, mais en tant que chrétien, ceux qui servent le Seigneur, dont la vie est pour lui à présent, qui ont été rachetés par le sang de Christ, nous sommes amenés à l'aimer, à le servir, à le chercher, à l'adorer. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est une mission sérieuse qui nous est donnée et solennelle. Témoignez pour moi, vivez dans la sainteté pour moi, dit le Seigneur, servez-moi sans dévier à droite ou à gauche jusqu'au jour de votre mort, c'est solennel. S'il nous disait, vous allez mourir martyr, ce n'est pas ce qu'il va nous dire, vous allez mourir jeune ou plus âgé, combien cette mission serait rendue sérieuse et solennelle pour nous. Une partie de Cette mission qui est redonnée à Pierre, c'est la prophétie de sa mort par exécution pour le nom du Seigneur. Nous devons être sérieux. Ce sont des jours, une période où beaucoup de gens qui croient dans la Bible se tournent vers une adoration qui est superficielle, informelle, qui est si légère et contemporaine, si informelle et pleine de divertissement, et ceci ôte l'idée que c'est quelque chose de si sérieux et solennel. Est-ce que vous êtes fidèle à votre mission ? Est-ce que nous sommes tous fidèles à notre mission ? Est-ce que nous prenons ces choses au sérieux, la mission de Christ ? Ou est-ce que notre priorité dans notre vie, c'est nos affaires, notre carrière, nos biens à la maison, notre maison, même notre ministère si précieux à notre famille, si ceci a pris la première place et les choses pratiques, les choses quotidiennes, le vêtement, la nourriture, est-ce que ceci a pris la priorité sur notre service pour le Seigneur et notre fidélité à sa mission ? Non, nous avons une mission et nous devons être fidèles au Seigneur toute notre vie. C'est un but du Seigneur. Dès qu'il redonne cette mission à Pierre, il parle de sa mort en tant que martyr pour rendre ces choses solennelles et pour sceller cette déclaration. Ceci est sur son cœur. Et deuxièmement, c'est une assurance extraordinaire pour Pierre. C'est comme si ceci lui disait, pas tout à fait, mais presque, c'est comme si ceci disait, tu ne chuteras plus, tu ne trébucheras plus de cette manière-là, tu ne me nieras plus, tu vas mourir courageusement pour le Seigneur en tant que martyr. Pierre va se dire, oh, quelle assurance! Le Seigneur va le garder, le protéger. Jamais ces choses ne vont se passer à nouveau par la grâce de Dieu. Et il a été fidèle. Oui, Pierre, dans un autre aspect, a trébuché. À un moment donné, il a accepté l'idée des judaïsants et il a relâché sa doctrine et il a été repris par l'apôtre Paul. Mais jamais plus il n'a nié le Seigneur, jamais plus. Il n'est tombé de cette manière-là. Peut-être que vous et moi, nous ne sommes pas affligés de persécutions physiques, ou peut-être que ceci va se passer dans les années qui viennent. Peut-être nous ne sommes pas menacés de mort, mais le diable peut utiliser d'autres instruments. Peut-être qu'il va nous faire nous détourner du chemin par des biens, par les richesses, et vous leur donnez tout votre cœur ou votre attention ou trop d'attention. Peut-être que le diable va vous détourner de cette manière-là et vous n'aurez plus un témoignage clair. J'ai vu ceci se passer dans la vie de certains chrétiens soudainement. Ils voulaient des choses plus grandes et meilleures et ceci est devenu extrême. Et ils voulaient dépenser et dépenser et des choses belles et des grandes choses, de belles voitures, de belles maisons. Et un style de vie complètement différent. Peut-être que pour vous, ce ne sera pas la persécution. Peut-être que ce sera l'opposé même qui va vous faire errer du chemin. Mais il y a une assurance là qui vient du Seigneur. Ceci, vous pouvez l'éviter. Paul parle de la fornication et de la convoitise. Il dit que ceci ne soit pas nommé parmi vous, parce que c'est possible d'éviter ces choses par la grâce de Dieu. Si un chrétien tombe moralement, alors c'est qu'il y a beaucoup de choses insensées dans sa vie pour qu'un chrétien tombe dans ces choses ou dans la convoitise. Cette personne a dû beaucoup regarder les catalogues et a dû beaucoup rêver pour des choses ambitieuses. Ou si un chrétien devient infidèle, alors probablement qu'il a regardé beaucoup de choses impures avant cela. Parce que l'apôtre Paul nous donne cette même assurance que celle que Pierre a reçue d'une certaine manière, que ces choses ne soient pas nommées parmi vous. Il ne dit pas ceci de beaucoup d'autres péchés, mais il dit ceci de la fornication et de la convoitise. Et c'était une grande assurance pour Pierre que le Seigneur lui dise « Tu mourras martyr ». Pierre était encore sensible est brisé à cause du fait d'avoir nié le Seigneur. Vous pensez à la réforme et à Thomas Bilney, l'un des réformateurs convertis à Cambridge, qui est devenu l'ami si proche de Latimer. Et Thomas, ce prédicateur, a prêché en 1526 et il a été torturé, arrêté, torturé, persécuté. Et il a nié le Seigneur. Il a abandonné sa confession, mais il était un chrétien réellement converti et il ne pouvait pas vivre avec ceci. Et il était si malheureux, il a regretté tellement que plus tard, il a prêché à nouveau. Et il ne pouvait plus prêcher dans l'église, mais il est allé dans les champs et il prêchait à la foule. Et il a été arrêté à nouveau. Il a été incarcéré dans la tour de Londres et il a été exécuté en 1531 pour sa foi en tant que martyr, parce qu'il était un serviteur de Dieu, un disciple du Seigneur, fidèle, même si une fois il a renié le Seigneur, mais il ne pouvait pas rester dans cette position plus longtemps comme Pierre qui a nié le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, tu vas être fidèle et tu vas mourir pour moi courageusement en tant que martyr. Et ceci était un tel encouragement pour lui et il est resté fidèle. Et ceci lui a enseigné d'autres choses également. Tu es Pierre dans ce ministère, non pas pour la grandeur, pour des grandes choses. Tu sais, tu vas mourir martyr, dit le Seigneur. Il avait besoin de cela. Il était l'un des disciples qui se disputait avec les autres pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Bien sûr, ils étaient dans l'erreur, mais ils pensaient qu'il allait régner sur cette terre. À ce moment-là, ils n'avaient pas compris qu'il était un sauveur spirituel, mais ils pensaient qu'il allait régner sur cette terre et qui alors sera le premier ministre. Et ils se disputaient pour cette position-là. « Non, dit le Seigneur, tu peux dire au revoir à tout ceci, tu vas mourir martyr, tu vas être exécuté et tu vas connaître l'hostilité contre toi, contre ton message et la difficulté. Il n'y aura rien de splendide. Le pape de Rome n'a jamais entendu cela parce que lui, il cherche la splendeur et les grandes choses comme tous ses prédécesseurs. Une grande richesse, la puissance et des vêtements resplendissants, la couronne. Ils n'ont jamais entendu les paroles du Seigneur qu'il a dites à Pierre. Il y aura l'opposition et tu vas mourir martyr. Il faut vivre simplement. Tu seras mon ambassadeur, mon prédicateur, itinérant. Ainsi, ceci parle aussi de son style de vie. Non pas de chercher des choses grandes dans ce monde. Et à nouveau, ceci l'avertit pour qu'il puisse se préparer et fortifier son cœur. Chaque chrétien doit se préparer. Nous nous disons, « Oh, je vais témoigner pour le Seigneur. » Il y aura certaines personnes qui vont recevoir mon témoignage et d'autres vont être hostiles. Et ils vont faire des choses contre moi. Préparez-vous parce que c'est là notre appel. Il y aura l'hostilité contre nous. Nous devons nous tenir fermes pour le Seigneur et lui plaire. Bien sûr, ceci, au niveau pratique, disait aussi à Pierre combien de temps il va vivre. Ou presque. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, il allait vivre encore 34 ans à partir de ce jour-là. Et il sait qu'il aura un long ministère, mais qui sera amené à une fin quand il sera exécuté, qu'il mourra martyr. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Ceci, de manière générale, les gens pensent que ceci implique qu'il allait être crucifié. On peut débattre de cela. Ce n'est pas certain, mais c'est probable. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra, te liera et te mènera où tu ne voudras pas. » Mais entre 67 et 68 après Jésus-Christ, il a été exécuté sous le règne de Néron et par ses ordres. Au verset 19, « Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. » Mais avant d'en arriver à ce verset, une application pour nous. J'ai déjà mentionné certaines choses. Est-ce que nous voyons notre appel de la part de Dieu sérieusement, sincèrement, d'une manière solennelle? Nous avons été sauvés par la grande miséricorde de Dieu. Christ a souffert et mort pour nous. Nous avons le salut libre et à présent nous sommes appelés à cette mission pour le servir tout d'abord. Est-ce que ceci est imprimé dans notre vie? Est-ce que nous prenons ces choses au sérieux? Ou est-ce que, en tant que chrétiens, nous sommes trop légers et nous ne prenons pas ces choses au sérieux? Dans 1 Timothée, chapitre 6, ces grandes paroles au verset 12 à 14. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. » Écoutez ces paroles, elles sont pour nous. « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, cet appel, cette mission, sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Oh, que nous puissions dire ceci. J'ai gardé le commandement, j'ai gardé mon appel, sans tâche, sans reproche, et ceci jusqu'à la fin. Ensuite, cette prophétie solennelle à Pierre qui parle de son martyre, ceci nous parle de la doctrine de la persévérance des saints, que nous sommes ici non pas pour nous-mêmes, mais pour Christ. Ceci nous prépare également pour l'hostilité et nous devons nous préparer à cela. Que ceci ne nous prenne pas par surprise et ceci nous montre également que peut-être nous allons vivre une longue vie ou peut-être une vie courte, ceci est entre les mains de Dieu. La date de mon départ, de votre départ, ceci est déjà décidé. Qu'est-ce que nous pouvons prendre avec nous, chers amis? Des occasions ratées, peu de témoignages pour Christ, pas d'âme sauvée pour le Seigneur, où nous avons contribué au salut de quelqu'un, ou pour qui nous avons prié, ou que nous avons soutenu. Nous allons continuer. Il y a encore au verset 18 quelque chose que je devrais rajouter. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Certains commentateurs disent ici que Pierre était décidé et il faisait ce qu'il voulait. Il avait sa propre volonté quand il était jeune. Je pense que c'est aller un peu trop loin que de conclure cela. Je ne pense pas que c'est juste de lire toutes ces choses dans ce verset. Parce que nous voyons que Pierre, au début de l'évangile, cherche le Seigneur et cherche quelque chose de plus profond. Ceci met en contraste sa vie quand il était jeune avec sa vie quand il était vieux, avant d'être sauvé et après qu'il soit sauvé. Quand il n'était pas sauvé, il était indépendant, il était pécheur, il avait son propre commerce, il était libre d'aller quand il voulait, où il voulait, comme il le voulait. Il était son propre employeur. Il avait la liberté. Maintenant, il obéit au Seigneur. Et il s'est donné pour être l'esclave du Seigneur, pour lui obéir. C'est là le contraste entre sa vie où il n'était pas sauvé dans le passé et à présent. Dans le passé, il était libre de décider par lui-même. Mais à présent, il doit chercher quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon pour un chrétien. C'est une autre manière de voir la vie. Dans le passé, j'étais libre et maintenant, je suis dirigé par le Seigneur. Peut-être que je dois passer dans des moments dans ma vie, dans des moments que je n'ai pas planifiés, plus difficiles, avec toutes sortes de limites, de restrictions. Mais je veux honorer le Seigneur, c'est là mon appel, de le représenter, de me tenir fermement pour lui, même dans cette situation plus difficile. C'est ainsi que nous voyons les choses en tant que chrétiens. Nous lui obéissons et nous obéissons à sa volonté. Et j'en arrive au verset 19. Le Seigneur dit ceci, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et naturellement, nous nous demandons de quelle manière est-ce que l'exécution de Pierre glorifie Dieu ? Ce n'est pas une question difficile. Comment est-ce que ceci montre que Dieu est glorieux ? Comment est-ce que ceci montre la grandeur de Dieu si Pierre est crucifié ? De nombreuses manières. La mort de Pierre de cette manière-là, comme toute mort, avant de considérer le martyr, comme toute mort d'un chrétien, ceci glorifie Dieu, parce que par votre vie, les âmes sont touchées. C'est une fin glorieuse, la fin d'un service pour le Seigneur dans ce monde qui a chuté loin de lui. Nous œuvrons pour le Seigneur. Nous témoignons pour lui, nous prions, nous travaillons ensemble dans différents ministères. Tout ce que nous faisons ensemble, est-ce que nous servons le Seigneur ? Est-ce que vous enseignez à l'école du dimanche ? Ou est-ce que vous visitez la communauté ? Ou est-ce que vous venez à la réunion de prière ? Et dans votre prière personnelle, est-ce que vous participez au salut de vos enfants en gardant la paix à la maison, en aimant votre épouse comme vous le devez, en aimant votre époux comme vous le devez, et en faisant face à toute dispute de la bonne manière comme des chrétiens? Ou est-ce que vous avez un mauvais témoignage devant vos enfants et ceci va les distraire et les empêcher de venir au Seigneur? D'une manière ou d'une autre, que la mort de chaque croyant soit la fin d'un chapitre glorieux, d'une période glorieuse, parce que vous avez contribué à rassembler les élus, votre triomphe, vous avez gagné des âmes, les âmes ont été gagnées au Seigneur. Chaque personne qui est ramenée au Seigneur, appelée à lui. Peut-être que beaucoup de fruits n'est pas visible, n'est pas connu, mais vous avez servi le Seigneur et vous pouvez être sûr que vous avez participé et que le témoignage est là. Souvent, quand vous entendez le témoignage de quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui vient au Seigneur, un certain nombre de personnes sont impliquées et ont été utilisées pour ce salut d'une certaine manière. Oh, que nous soyons tous amenés dans la présence de Dieu dans l'éternité, avec du fruit pour lui, en participant pour rassembler les élus de Christ. Et ensuite, Pierre aurait glorifié également le Seigneur en se tenant fermement pour lui. Même les officiers à Rome et les gens importants étaient émerveillés devant la mort des chrétiens et ils disaient « Oh, voyez comment ces chrétiens meurent !» C'était un témoignage. La mort martyre. Ceci montrait leur sincérité et la réalité de leur expérience avec Christ. C'est un témoignage pour nous, même des siècles plus tard. Ces apôtres, la plupart d'entre eux ont été exécutés, martyrs. Pas tous, mais la plupart. Ceci nous montre qu'ils ont réellement vu le Seigneur. Ils étaient des témoins, c'était là leur tâche principale. Ils ont témoigné du Seigneur ressuscité. Ceci devait être vrai parce qu'ils mouraient pour ceci, pour cette cause. Ceci était certain dans leur cœur, dans leur esprit. Ainsi, ceci fortifie l'Écriture pour nous. Ceci glorifie Dieu. Tout chrétien qui meurt avec un témoignage clair sont un témoignage également pour les chrétiens qui errent et qui sont distraits et qui n'obéissent pas pleinement au Seigneur. Et nous voyons ces gens qui se tiennent fermement pour le Seigneur, qu'ils sont convaincus, et ceci nous rend honteux si nous sommes rétrogrades. Et alors nous venons devant Dieu et nous nous redonnons d'une manière toute nouvelle à lui, parce que ceci nous remet en question et la mort d'un chrétien, et en particulier la mort d'un martyr. Ceci fait trembler le diable, les démons, les puissances de ténèbres et Satan basent leur hostilité contre Dieu sur le fait que tous les chrétiens sont des faux chrétiens, comme Satan a dit de Job à l'époque, qu'il aime Dieu uniquement pour ce qu'il reçoit de lui. Si je peux lui ôter tout, alors il va maudire Dieu, il va mourir. Et à ce moment-là, le Seigneur lui a permis de tout prendre dans la vie de Job, et il n'a pas maudit Dieu, mais il s'est tenu fermement pour lui. Et sa souffrance a montré qu'il aimait réellement le Seigneur. Mais le diable et les démons croient que nous sommes tous de faux chrétiens et qu'ils peuvent gagner contre Dieu cette bataille. Et la mort d'un chrétien qui se tient fermement dans la foi, en particulier sous la persécution, peut-être par exécution comme martyr, ceci fait trembler les démons. Ceci fait trembler les piliers même de leur foi déformée et tordue. Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Nous avons considéré pourquoi Christ a dit à Pierre qu'il allait mourir en martyr. Nous avons considéré comment la mort de Pierre en tant que martyr allait glorifier Dieu. Et à présent, j'aimerais rajouter quelques paroles par rapport au fait de devoir rendre compte en tant qu'individu. C'est notre troisième point au verset 20. Et Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur le sein de Jésus et lui avait dit « Seigneur, qui est celui qui te trahit ?» Pierre, donc, l'ayant vu, dit à Jésus « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » D'une manière évidente, Christ, si nous comprenons bien le passage, s'est détourné du groupe de disciples. Pourquoi ? Parce qu'il allait disparaître. C'était une apparition du Seigneur ressuscité. Il allait partir. Il partira. Ils ne le verront plus. Et Pierre volontairement le suit, au moins pour quelques pas. Et ensuite, il a remarqué que Jean le suit également. Ainsi, il se tourne vers Christ et il dit ces paroles « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il ?» Ou littéralement en grec « Qu'en est-il de cet homme ?» C'est tout ce qu'il dit. Est-ce que lui mourra martyr ? Je pense que ce qu'il veut dire ici, c'est « Est-ce que nous périrons ensemble ?» Ils étaient amis, Pierre et Jean. Ils sont constamment ensemble dans les évangiles. Ils sont ensemble pour aller au sépulcre qui est vide. Ils sont constamment ensemble, ils sont des amis proches. Ils sont allés ensemble dans la maison du souverain sacrificateur avant la crucifixion. Ils sont des amis proches. Ils se complémentent l'un l'autre. Peut-être que Pierre pense qu'ils allaient toujours œuvrer ensemble. Peut-être qu'il pensait que tous les apôtres allaient œuvrer ensemble. À présent, le Seigneur lui montre que non. Oui, il faut penser l'un à l'autre, il faut être en souci l'un pour l'autre. Oui, vous devez prier l'un pour l'autre et de temps en temps, vous allez vous rassembler, mais vous allez œuvrer en tant qu'individu. Vous serez principalement dans des endroits différents, vous allez voyager et vous allez être des prédicateurs itinérants, vous allez souffrir. Et vous allez être exécutés individuellement, à différents moments, dans différents endroits. Et voici la chose importante. Qu'est-ce qui va se passer pour Jean? Comment est-ce qu'il va mourir? Ceci ne t'importe pas. Toi, tu dois être responsable de ta vie. C'est là ce que Christ semble dire à Pierre. Vous n'allez pas œuvrer ensemble. Vous vous verrez l'un l'autre et vous devez prier l'un pour l'autre. Et vous devez être un en beaucoup d'aspects, mais vous n'allez pas œuvrer ensemble. Et ce qui est donné à Jean et son appel, ceci, tu ne devrais pas t'en soucier. L'Église catholique pense encore que Pierre était le premier pape et responsable de tous, alors que le Seigneur lui dit clairement qu'il ne doit pas se soucier de Jean ou des autres apôtres. C'est là la signification de ce passage. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Toi, suis-moi. Tu dois rendre compte. Tu es sous mon commandement et tu dois obéir. Nous œuvrons bien sûr ensemble dans une église. Et nous devons avoir un esprit d'équipe, mais nous devons rendre compte individuellement devant le Seigneur. Au jour dernier, nous devrons rendre compte de tout ce que nous avons fait, de toutes nos paroles et toutes nos priorités. Et comment nous avons vécu? Et le Seigneur dit à Pierre, regarde à toi-même. Toi, tu devras rendre compte toi-même pour ta vie, les individus. C'est là le message de cette tâche. Toi, suis-moi. Obéis à mes commandements, dit le Seigneur. Sers-moi. Nie-toi toi-même. Et suis-moi. Nous ne devons pas vivre exactement comme Christ a vécu, sans un toit au-dessus de notre tête, dans la pauvreté, mais nous devons honorer son style de vie. Nous ne voulons pas vivre une vie pleine de richesses, de splendeur. Suivez-moi dans la simplicité de vie. Et nous devons nous attendre à souffrir et marcher en ayant le ciel à l'esprit, et gardez vos yeux sur le but, suivez-moi exclusivement. Ne me partagez pas avec des ambitions, avec votre carrière ou avec des divertissements insensés, dit Christ. Suivez-moi dans un esprit de sacrifice, avec votre énergie, votre temps, votre argent, et suivez-moi plein d'amour, faites toutes ces choses dans l'amour, non pas simplement par devoir, mais parce que vous m'aimez et que vous m'appartenez. Suivez-moi en ayant l'éternité à l'esprit, à chaque étape de votre vie et pour toujours. Ce sont là les critères pour nous également. Chers amis, nous avons ici la fin de l'évangile de Jean, verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est véritable. Quand vous lisez ce verset, il semble être écrit par quelqu'un d'autre que l'apôtre Jean. Quand vous lisez le verset 24 pour la première fois, ceci semble être Jean, mais quelqu'un d'autre signe pour lui. Quelqu'un d'autre rajoute ceci. Il ne se réfère pas à lui-même. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons qui sont nous qui écrivent les derniers versets de l'évangile de Jean. Nous pensons que c'est les anciens de l'église d'Éphèse, là où Jean était quand il a écrit cet évangile. Et nous savons que son témoignage est véritable. Nous savons. Nous connaissons l'apôtre Jean, nous connaissons sa vie, nous connaissons ses convictions, nous savons qu'il est fidèle. Et chaque fois qu'il a prêché dans cet endroit, nous connaissons sa sainteté, nous savons qu'il est loin de Dieu. C'est là le disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est véritable. Et nous savons que son témoignage est véritable. Et nous savons cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu a régénéré nos cœurs et nous a donné cet instinct spirituel, l'une des premières expériences que nous avons eues en tant que chrétiens, nous savions que ceci était vrai. Nous savions ceci. Nous savons que son témoignage est véritable. Et le dernier verset, qui me semblait étrange dans le passé, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Et si vous êtes un scientifique et que vous prenez les choses littéralement, ou que vous êtes un ingénieur, vous vous dites « comment est-ce que ceci se peut ?» J'ai entendu des gens dire que si les petits poissons ne mangeaient pas leurs petits, alors le monde serait plein de poissons et aucun autre poisson ne survivrait. C'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce concevable que si tout ce que Christ a fait et dit sur cette terre était écrit, alors il n'y aurait pas de place pour nous? Que le monde serait plein de livres? Est-ce que c'est une exagération poétique merveilleuse? Nous ne devrions pas voir ces choses trop littéralement. Dans ce passage, Christ a dit à Pierre, « Suis-moi !» Et à nouveau, « Toi, suis-moi !» Et il n'a pas pensé ces choses littéralement, parce qu'il allait disparaître et retourner au ciel. Ainsi, Pierre ne pouvait pas le suivre littéralement. C'est une métaphore. « Suis-moi en obéissant !» Suis-moi par ta consécration, par ton service. Et c'est la même chose ici, le monde plein de tous les livres qui pourraient être écrits. Ceci, nous ne devons pas prendre ces choses littéralement. Ceci signifie que toutes les librairies de ces jours-là, d'il y a 2000 ans, seraient pleines de livres qui montraient, qui expliquaient les œuvres de Christ, si chaque miracle de Christ, chaque acte de Christ, chaque prière, chaque pensée, chaque parole prononcée par le Sauveur, même les choses secrètes, chaque accusation de Satan qu'il a repoussée, si tout en relation avec la vie de Christ serait dans la Bible serait énorme, bien, bien plus grande que celle que nous avons. Et l'explication de tous ces événements serait multipliée également. Et ceci est un fait que, avant ce dernier siècle, la majorité des livres dans toute grande bibliothèque dans le monde étaient des livres sur la foi chrétienne. Et qu'en serait-il si toute la vie de Christ était révélée dans des livres et même à présent? Peut-être je vais trop loin, mais même à présent, savez-vous qui a le record dans la langue anglaise pour être l'auteur du plus grand nombre de volumes de livres sous un seul titre? Le record est celui de Charles Spurgeon, qui était prédicateur dans cette église, avec 63 volumes de ses prédications au tabernacle. C'est là l'un des plus grands livres dans la langue anglaise par un auteur anglais. Si vous ne prenez pas ces choses littéralement, ce dernier verset est vrai, entièrement vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Et au verset 22, pour conclure avec cet évangile, ceci nous parle, ces trois dernières paroles de Christ, « Toi, suis-moi ».